Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, dans le verset 24, nous entendons le prophète Samuel s'adresser au peuple et leur dire ceci. « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui lui soit semblable. » Et que répondit le peuple par son cri ? « Yeri Ammeler ». Ce que la Septante a traduit par « Zeto » au Basileus. Alors vous entendez « Zoé », la vie, et puis « Basile », le roi. Mais si vous lisez la King James, ils ont traduit par « God save the King ». Quelle étrange traduction. Alors, l'Église d'Angleterre a changé de chef. C'est désormais « God save the King » et non plus « God save the Queen ». Et moi, ce matin, je vous accueille avec les mots de l'apôtre Paul, qui, dans sa lettre à Timothée, s'adressait ainsi à ses correspondants. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, c'est donc au nom même de Dieu que nous sommes réunis ce matin. Ce n'est pas grave, ne vous précipitez pas. Et nous avons le plaisir d'être autour de Guillaume et d'Alice qui ont demandé le baptême pour leur enfant. Et au fond, cette phrase de Samuel retentit peut-être d'une manière particulière dans nos assemblées chrétiennes. Celui que l'Éternel choisit, c'est aujourd'hui cet enfant pour lequel nous allons dire la grâce que Dieu lui porte, comme il porte un regard favorable sur chacun d'entre nous. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous rassemble aujourd'hui, le désir d'exprimer notre reconnaissance pour cette grâce qui nous rejoint et qui nous permet de vivre à la hauteur de l'espérance de Dieu. Alors, levons-nous pour chanter Dieu avec la première strophe du psaume 81. Au psaume 81, nous chanterons la première strophe. Nous louons Dieu. Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton nom. Que mes mains te célèbrent par leurs gestes. Que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers les chants et les paroles d'amour. Que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que ma force te loue en se mettant au service de ton espérance. Et que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse et de toute manière. Oui, que tout en moi célèbre ton nom, Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter au psaume 36, les strophes 1, 2 et 3, pour poursuivre notre louange par le chant. Prenons place. Nous reprendrons ensuite le psaume 81 pour ponctuer notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière de repentance. Éternel notre Dieu, un jour, peut-être, avons-nous été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Si nous l'avons été, nous l'avons été en ton nom de Père. Mais t'aimons-nous véritablement de tout notre cœur? La vérité est que nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Bien souvent, nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Baptisés, nous l'aurons été au nom de ton Fils. Mais aimons-nous véritablement notre prochain? Ne cherchons-nous pas plutôt notre propre intérêt au lieu de servir? Baptisés, nous l'aurons été au nom de l'Esprit. Quels sont les fruits que nous avons portés? Notre vie est-elle véritablement marquée par l'amour, par la fidélité et par la joie? Nous t'en prions, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Chantons la troisième strophe du psaume 81. Oracle de l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. À cet oracle s'ajoute cette parole de Jésus qui dit « Celui qui croit en ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ». Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, voici ce que nous offre le pardon de Dieu. Ne plus être obsédé par la question de la mort et celle de notre culpabilité, mais devenir responsable, c'est-à-dire être en mesure de répondre à l'appel de la vie et orienter notre existence par cet appel à la vie. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre reconnaissance par la quatrième strophe du psaume 81. Alice et Guillaume ont donc demandé que leur enfant reçoive le baptême. Pour nous, c'est une grande joie car cela permet de célébrer la vie. Et puis cela permet à notre Église de répondre à sa vocation. En effet, au moment de quitter ses disciples, le ressuscité s'adresse à eux en leur disant « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, et cela s'adjoint d'une promesse, voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, frères et sœurs, notre Église répond à sa vocation personnelle, et cette réponse, c'est le mouvement de la foi. La foi, c'est cette confiance dans le fait que cet appel est juste et bon, qu'il est infiniment désirable, que nous pouvons y adhérer. Et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant confesser notre foi, et je vais laisser aux parents le soin de faire une proclamation de foi qui sera aujourd'hui notre confession de foi.
Je crois en toi, Dieu, Dieu qui me bouscule, Dieu qui me sort de ma zone de confort, Dieu qui accepte mon doute, Dieu qui m'aime, tout simplement. Dieu demeure en moi telle une lumière, qui met en évidence la vérité et me guide sur le chemin de la vie, entre assurance et audace, stabilité et mouvement, familier et inattendu. La famille est à l'image de Dieu. Elle me rappelle le sens du devoir. Elle me donne une place qui fasse droit à ma personnalité. Elle m'offre la capacité de rayonner, et même sans condition, malgré les divergences d'opinion.
Dans la famille, dans l'Église, dans la société, je découvre que Dieu m'aide à pardonner, redonne le courage quand il me semble perdu, et m'appelle à exercer mes responsabilités envers autrui. Dieu aiguise cette vive conscience qu'une vie harmonieuse repose sur chacun d'entre nous. Ma foi me procure l'assurance dans l'inattendu et révèle ma capacité à donner des impulsions à la vie. J'ai confiance en Dieu, capable de ressusciter en moi le courage, la volonté pour me rappeler l'importance d'être juste. Amen.
Je vais vous inviter à rester, je vais inviter l'Assemblée à s'asseoir un moment, et puis je vais demander aux parrains-marraines de venir avec votre fils. Oui, nous avons impérativement besoin de lui. Et je vous propose peut-être de le prendre avec vous. Certainement, le baptême est-il une habitude chrétienne. Je veux dire par là que certainement, lorsque nous demandons que nos enfants soient baptisés, c'est pour faire comme nos aïeux. C'est pour l'inscrire dans une tradition d'abord familiale et puis aussi spirituelle. Mais il y a dans l'affirmation du baptême le fait que la grâce de Dieu rejoint chacun de nous de manière personnelle. C'est la raison pour laquelle le baptême est à la fois un rite commun à tous les chrétiens, mais aussi une manière d'exprimer l'Évangile d'une manière toute particulière. Et c'est la raison pour laquelle je vous redonne à nouveau la parole pour que vous puissiez exprimer le sens que cela a pour vous de demander aujourd'hui le baptême pour votre fils.
Nous demandons le baptême pour attester que Gustave a une place auprès de Dieu. Nous demandons le baptême afin de rendre grâce à Dieu de nous avoir confié Gustave et de nous avoir comblés.
Nous demandons le baptême afin de réunir notre famille et nos amis fidèles, de les remercier d'avoir été là dans nos épreuves respectives, de nous avoir procuré de la douceur dans les moments difficiles, d'avoir cru en nous et de nous avoir donné beaucoup d'amour. Nous les remercions d'être avec nous en ce jour si important pour notre enfant et pour l'entourer de leur affection, de leur sourire et lui rappeler l'importance de se soutenir, de nous aimer les uns les autres et de ne jamais oublier le bonheur d'être en famille. Nous demandons à Clémence, marraine, Thibault, parrain, d'accompagner Gustave, de partager des moments qu'ils voudront avec lui et nous leur donnons toute notre confiance pour le soutenir dans les décisions importantes de sa vie.
Gustave, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, Gustave, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, voici Gustave.
Gustave, tout va bien.
Gustave, ces gens sont ta famille spirituelle. Il vaut mieux qu'ils réagissent plutôt que d'être indifférents. Gustave, voici ta famille spirituelle. Tu as entendu cette acclamation qui exprime bien la joie pour toutes ces personnes de pouvoir t'accueillir et de te reconnaître comme un frère. Frères et sœurs, cela signifie que vous avez bien sûr une responsabilité à l'égard de Gustave et de sa famille. Gustave aura toute la liberté d'occuper cette place qui lui est aujourd'hui affirmée. Et vous accompagnerez donc ses parents de votre prière, de votre affection et de tous les soins qui seront nécessaires pour que Gustave puisse grandir en stature et en sagesse. Précisément parce qu'il a cette liberté des enfants de Dieu, il pourra ou non occuper cette place qui lui est offerte aujourd'hui. Et à supposer qu'il s'en éloigne, vous serez témoin de l'amour inconditionnel de Dieu en disant que sa place est à jamais marquée. Néanmoins, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Gustave, ce sera notre grande joie que dans quelques années tu confesses avec nous que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez comme ce programme commence déjà à le réjouir. Je vais maintenant laisser la parole à la marraine et aux parrains pour qu'ils puissent eux aussi dire quelques mots sur ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent pour Gustave.
Gustave, j'ai hâte de te faire découvrir plein de choses et de les partager avec toi. Je serai toujours là quand tu en ressentiras. Je serai toujours là pour t'écouter et te conseiller quand tu en ressentiras le besoin. Compte sur moi pour t'apporter de l'amour et du soutien.
Notre pasteur James Woody a demandé que Clémence et moi partagions quelques mots pour le baptême de Gustave, principalement au sujet de ce que je voudrais lui apporter en tant que parrain. Nous connaissons tous les qualités intrinsèques, nombreuses et complémentaires d'Alice et de Guillaume, telles que la perspicacité, la bonté, la volonté et la constance. Alors mon désir le plus fort est, tout simplement, en plus d'être présent au moment clé de sa vie, de retrouver les qualités de ses parents dans un Gustave grandissant.
Frères et sœurs, associons-nous au plaisir de ce baptême en chantant le cantique 507. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 507. Prenons place. Et prions Dieu avant de lire un passage qui nourrira notre méditation ce matin. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Mais pour cela, encore faut-il que nous soyons bien disposés, réceptifs à ce que tu attends de nous. Alors nous te prions pour que ce matin, ta parole vienne une fois nouvelle arroser et féconder notre terre personnelle, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Lors de nos entretiens, nous avons évoqué quelques textes bibliques, et c'est finalement un passage de l'Épître aux Hébreux qui a retenu plus spécifiquement notre attention. Au chapitre 11, nous lisons ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parcourt l'histoire biblique pour voir à travers quelques personnages de quelle manière cela s'exprime. Et je reprends la partie consacrée à Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent de passer, furent engloutis. Frères et sœurs, chantons la 5e strophe du psaume 81. Restons assis pour chanter cette 5e strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, nous avons appris de Victor Hugo qu'il appartient à la famille d'éduquer les enfants et à la nation de les instruire. Alors du coup, la question se pose de savoir quelle est la place de l'Église dans ce dispositif. L'Église est-elle là pour éduquer les jeunes pousses ou est-elle là pour les instruire? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'Église doit s'efforcer d'accompagner les familles vers la terre promise avec l'aide de Dieu. Et en ce sens, elle ne peut pas se dépréoccuper de l'éducation familiale. Alors, je ne vais pas ce matin vous donner le mode d'emploi de la parentalité. Je ne vais pas vous dire quel doit être l'agenda quotidien de Gustave. En revanche, j'aimerais vous rendre sensible à quelques-unes de vos responsabilités que nous partageons avec vous. Et j'aimerais que, en tant qu'Église, nous assumions cette responsabilité de faire en sorte que Gustave puisse devenir plus tard adulte, au sens de la foi, adulte dans la foi. L'Église doit s'interroger sur la part qu'elle prend en matière d'éducation, non pas pour réglementer l'éducation nationale, non pas pour s'immiscer dans les affaires familiales, mais pour faire en sorte que l'éducation que nous prodiguons à nos enfants soit la plus ambitieuse possible et qu'elle nous permette de faire en sorte que nos enfants ne se contentent pas de vivre, mais qu'ils existent, qu'ils se tiennent hors d'eux-mêmes, hors de leur quant à soi, qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, au sens où la foi chrétienne et cette reconnaissance que nous ne sommes pas auto-fondés, que nous tirons notre vie, notre identité d'un autre que nous-mêmes. Alors, en tant que parents, quelle est notre responsabilité en termes d'éducation? Je pense que l'Église est un bon lieu pour réfléchir à cela, parce que l'Église est témoin de l'altérité en étant témoin de Dieu. Et c'est cette altérité, je pense, qui est vraiment décisive pour que nous ne soyons pas que des automates programmés, mais que nous puissions devenir véritablement humains au sens de ce que l'Évangile révèle de l'humanité incarnée à travers le Christ Jésus. Quel compagnonnage d'adultes pouvons-nous donc offrir à Gustave pour aborder les choses de manière très concrète? Gustave, il va falloir ouvrir bien grand tes oreilles, mais rassure-toi, ton parrain et ta marraine sont là comme mémoire auxiliaire. Le premier aspect auquel ce texte nous rend sensibles, c'est la capacité que nous devons développer à voir l'invisible. C'est la première chose que je retiens, à la limite, ça pourrait nous suffire. Développer notre capacité à voir l'invisible. Notre capacité à pouvoir observer ce qui n'est pas visible immédiatement à l'œil nu dans notre monde. Alors évidemment, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ce peut être tout ce qui est fait d'une telle taille que nous ne pouvons pas l'observer, parce que c'est trop petit. On pense à l'infiniment petit avec les atomes. On peut aussi penser avec ce qui est trop lointain, avec les galaxies. On peut penser à ce qui est trop grand, comme une ville, un pays, la Terre a fortiori. Mais, à vrai dire, tout cela devient visible pourvu qu'on ait l'équipement technologique nécessaire. Ce n'est donc pas sur ces aspects-là, je crois, que le texte biblique nous emmène. La technologie nous permet d'accéder aux aspects de la vie qui sont, somme toute, matériels et donc accessibles. Le texte biblique nous rend attentifs aux dimensions non matérielles de l'existence et qui n'en sont pas moins essentielles pour autant. Ainsi, vous pouvez avoir le télescope le plus perfectionné qui soit, nourri de plusieurs ordinateurs, cela ne vous permettra pas d'observer la liberté. Vous pouvez disséquer quelqu'un, Vous ne parviendrez pas à placer son âme sous un microscope. Et il ne vous sera pas possible de photographier l'amour, ni même de le filmer, à vrai dire. Tout au mieux, en verrez-vous les effets. Tout cela et bien d'autres choses encore, les émotions par exemple, sont des éléments essentiels de notre vie. Et ne pas en tenir compte, c'est manquer une grande part de notre vie. Mais comment y avoir accès? Et surtout, comment faire découvrir cela à un petit bout de chou qui n'y connaît rien à la vie? Eh bien, l'éducation commence par révéler aux plus jeunes que nous ne sommes pas que des êtres de chair. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Ce qui est une manière de dire que nous avons une vie intérieure, avec des pensées, avec des émotions, et une mémoire de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons ressenti, qui ont besoin d'un corps, bien sûr, mais le corps ne sature pas tout ce que nous sommes. Ne pas tenir compte de cela, c'est en rester à une approche matérielle de la vie qui sera incapable de nous permettre de comprendre le fonctionnement du monde dans toute son étendue. C'est ce que nous fait réaliser le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, qui précise que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Cette phrase est encore plus intéressante si nous restons au plus proche du texte grec, langue dans laquelle ce passage biblique a été rédigé. Puisque cette phrase dit que, par la foi, nous avons l'intelligence de l'éternité, conçue par la parole de Dieu, jusque dans ce qui existe, sans être manifesté à la vue. La conscience de l'éternité, qui n'est pas visible à l'œil nu. Ce ne sont pas les yeux qui permettent de prendre conscience de Dieu, ce sont les témoignages des anciens. C'est par la parole que nous pouvons éduquer les plus jeunes, de telle manière qu'ils soient sensibles aux aspects non matériels de la vie, qui ne sont pas moins importants au prétexte qu'on ne les voit pas, bien au contraire. Et voyez-vous, à une semaine des Journées du patrimoine, il est toujours précieux de retrouver ce geste réformateur qui a consisté à vider les temples de tout ce qu'il y avait à voir, car cela pourrait nous donner le sentiment qu'il suffit de voir pour croire, que nous pouvons nous contenter de voir pour savoir ce qu'est la vie. En vidant le temple de son mobilier, et voyez comme nous sommes vraiment très protestants, nous avons même retiré l'orgue cet été. Eh bien, nous disons à quel point la parole a un caractère central dans les questions spirituelles. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la création de Dieu, il faut que nous-mêmes nous nous souvenions de quelle manière le texte biblique parle de la création du monde par Dieu. Cela se fait par la parole. Ce sont des mots qui sont offerts au lecteur pour qu'il comprenne le monde qu'il a sous les yeux et qui n'est pas compréhensible si quelques paroles ne viennent pas donner du sens à ce que nous voyons. Je reprends toujours la question de l'ambiguïté de la nature. Il y a encore de belles soirées qui s'annoncent devant nous. Vous pourrez peut-être ce soir aller à Palavas-les-Flots sur le bord de mer pour voir le coucher du soleil. Et vous serez peut-être transporté par des émotions faites de joie, d'amour et de reconnaissance. Mais songez que 10 mètres plus loin, la même personne qui regarde le même coucher de soleil et qui vient de perdre un être aimé verra quelque chose de très crépusculaire, la fin de quelque chose qui ne le remplit pas du tout de joie, mais de tristesse. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mots sur ce que nous voyons et même sur ce que nous ressentons pour qu'il y ait du sens à cela. Alors, les textes bibliques ont été rédigés pour justement éduquer notre regard, éduquer notre conscience, pour que nous soyons à même de voir au-delà des apparences. Les personnages bibliques dont parle ce texte nous permettent de découvrir ce qu'est la justice, ce qu'est le plaisir, ce que sont les menaces, ce qu'est la vocation, ce qu'est une promesse, ce qu'est la descendance, ce qu'est la bénédiction, ce qu'est la puissance, ce qu'est l'accueil inconditionnel, etc. Toutes choses constitutives de la vie, dont on ignore tout si personne ne nous en parle. Il y a un impératif à parler. Il y a un impératif à raconter. Il y a un impératif à offrir des mots à Gustave et à nous-mêmes qui ne sommes pas allés au bout de notre découverte de la vie. Dieu désigne la possibilité de ne pas se contenter d'une vie qui serait soumise aux questions et aux besoins matériels et qui ne s'intéresserait qu'à cela. Dieu désigne une vie qui est conduite hors des seules considérations matérielles, et c'est en ce sens où nous pouvons parler d'éducation. L'éducation, éduquer, c'est conduire hors d'eux, hors des sentiers battus, hors des terres connues, hors du déjà-là, hors de l'état naturel des choses. Gustave n'est pas qu'un estomac sur pattes. Il est aussi un être capable de s'intéresser à ce qui constitue la patrie céleste, comme en parlera l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans un passage que je ne vous ai pas lu, ce que nous appelons aussi la vie spirituelle. Alors, de cette initiation à la dimension spirituelle de la vie découle un deuxième élément de l'éducation que nous pouvons prodiguer à Gustave pour en faire un adulte au sens plein du terme, c'est l'aider à forger une espérance. Ne pas s'en tenir aux apparences et donc voir plus loin, la question de l'espérance. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, dit ce passage biblique dès le départ. Nous pouvons observer cela à travers le résumé de la vie de Moïse que nous avons entendu et que vous retrouverez plus complètement dans le livre de l'Exode notamment. Il faut bien prendre conscience que Moïse aurait dû mourir. C'était son destin, le destin voulu par le roi d'Égypte, le Pharaon. Le Pharaon avait peur du grand remplacement. Il voyait que les Hébreux étaient de plus en plus nombreux. Il se disait, mais ils vont venir manger le pain des Égyptiens. Et pour faire face au grand remplacement, il décide que tous les garçons nouveau-nés seraient tués à leur naissance. Ce qui n'était pas un très bon calcul au demeurant. Jonathan Swift, pour essayer d'éradiquer la pauvreté en Angleterre, avait dit « Attendons qu'ils aient 3 ans, ils seront plus comestibles et c'est le moment où la balance économique sera en la faveur des parents. » Oui, bien sûr, c'était plein de sarcasme. Comme le texte biblique est plein de sarcasme sur l'attitude du Pharaon. Néanmoins, la menace est réelle. Moïse n'aurait pas dû survivre à cet édit royal. Si sa mère a décidé de désobéir à l'ordre royal, comme nous l'avons entendu, et qu'elle ait fait en sorte de sauver son fils, c'est parce qu'elle a estimé qu'il y avait plus grand que le Pharaon et plus important que le décret du Pharaon, qui pourtant était bien tangible. Contre le roi, qui disait que cet enfant n'avait pas sa place sur terre, la mère a répondu à un appel à la vie selon lequel Moïse avait encore de belles choses à vivre. Et le baptême dit cela. Notre identité véritable est en Dieu. Quoi qu'on dise de nous, quoi qu'on pense de nous, quoi qu'on fasse de nous, il est juste et bon que nous soyons là, par la seule grâce de Dieu. Et c'est cela, chère marraine et chers parrains, que vous devrez faire entendre à Gustave en toutes circonstances, à l'école, quand ses camarades de classe pourront peut-être se moquer de lui. Ou le faire entendre à Gustave s'il vient à vouloir se moquer de ses camarades. Nous ne sommes pas toujours les victimes. Et ainsi de suite, lorsque la société peut-être estimera qu'il est de trop ou qu'il est un parasite, je ne sais pas. Notre identité véritable est en Dieu. Et cette identité nous fait prendre conscience qu'il est juste et bon que nous soyons là, de manière inconditionnelle. La mère de Moïse a témoigné d'une espérance forgée dans la foi. Cette foi en Dieu qui révèle que notre existence est au bénéfice de cette patrie céleste où notre vie pourra être portée à son plein accomplissement. Par la suite, Moïse lui-même a témoigné d'une espérance semblable en œuvrant pour le salut du peuple hébreu, puisque c'est lui qui va faire sortir le peuple du pays d'Égypte, qui symboliquement représente la servitude. Plutôt que de se soumettre à l'ordre du Pharaon et à son désir de domination, Moïse considère que la liberté doit être en tête de toutes nos préoccupations. Notre espérance consiste à intuitionner ce qu'est la vie portée à son incandescence, la vie selon Dieu, et à orienter nos choix, nos projets en fonction de cela. C'est la raison pour laquelle le peuple hébreu a pu traverser la mer Rouge, comme en parle ce texte, ou la mer de Jonc, comme en parle un passage du livre de l'Exode, Yam Souf. Dieu désignait au peuple un au-delà possible, une terre où il serait possible de vivre selon un idéal de justice et non selon la terreur imposée au Pharaon. Pour les Égyptiens qui, eux, étaient soumis à une vision calée sur l'ordre du monde, immuable, inébranlable, aussi stable qu'une pyramide, eh bien, cette vision non éclairée par Dieu fit que la mer devant laquelle ils se trouvèrent ne fut pas la mer de Jonc, ne fut pas Yam Souf, mais elle devint la mer de la faim, Yam Sof, ce qui s'écrit de la même manière en hébreu. Un obstacle infranchissable qui ne pouvait que les submerger s'ils s'y aventuraient. Il y a là une métaphore intéressante pour nous tous qui, dans notre vie quotidienne, sommes affrontés à des obstacles, à des difficultés dont on se dit parfois qu'elles sont insurmontables, qu'elles vont nous submerger, qu'on ne va pas y arriver, qu'on va se noyer dans tout ce que nous avons à faire. Ce fut la même chose pour l'apôtre Pierre lorsqu'il était disciple et qu'il était sur cette barque, sur une autre mer, la mer de Galilée, la mer de Kinneret, en pleine nuit, et qu'il voit le Christ s'approcher de lui, marchant sur les eaux. Et Pierre, qui veut toujours faire le malin, demande à Jésus s'il peut lui aussi sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, « Sors, accomplis ton propre exode. » Pierre sort, il se met à marcher sur l'eau, mais il voit la nuit obscure, les vagues hautes et le vent violent, et il se met à couler. Parce qu'il n'est plus animé par l'espérance. Il perd de vue ce qui est essentiel. Il n'a plus le regard fixé sur le Christ, mais sur toutes les menaces qui pèsent sur lui. Et il coule d'être obsédé, obnubilé, saturé par toutes ces menaces. C'est la raison pour laquelle Jésus dira de lui que c'est un oligopistos, un homme de peu de foi. Oligo, petit, pistos, la foi. Les oligopistoi, les hommes de peu de foi, ne vivent pas longtemps en général, parce que tout est menaçant dans la vie, parce qu'ils n'adhèrent pas à un idéal de vie par laquelle l'espérance leur permet de pouvoir voir qu'il y a plus grand que les difficultés, ce qui décuple l'énergie, la créativité et le désir d'avancer. Cela me conduit au troisième point relatif à l'éducation que je repère dans ce texte. Faire voir l'invisible en parlant. Alors, le but, c'est pas de collectionner les mots. C'est des paroles, pas du verbiage. Hein. Forger une espérance. Et puis maintenant, susciter l'engagement. S'engager dans la vie, se lancer dans l'aventure de la vie, à vrai dire, cela n'a rien d'évident. Cela n'a rien de naturel. Voyez votre Gustave, naturellement, il dort dans sa poussette. Naturellement, Gustave ne se dit pas qu'il pourrait un jour bâtir un temple. Quand on y pense, un temple est un objet surnaturel. Quelle idée de bâtir un temple comme celui-ci et comme bien d'autres. Ce génie humain qui consiste à ne pas laisser les choses en l'état est tout simplement une réponse, une fois de plus, à la création de Genèse 1. Dieu aurait très bien pu laisser les choses en l'état, le tohu-bohu initial. Et au fond, c'est ce que nous faisons parfois. On laisse en l'état. Mais Dieu crée en disant qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Sinon, elles ne sont pas vivables. Elles ne sont pas tov. Alors, ce fut le cas pour Abraham, qui aurait pu vivre tranquillement dans les jupes de ses parents. Ce fut le cas pour Moïse, qui aurait pu vivre tranquillement à la cour de Pharaon, puisque par une ironie de l'histoire, quand sa mère le cache dans un petit coffre qu'elle met sur le Nil, c'est la fille de Pharaon qui récupère le coffre et qui, voyant l'enfant, décide de l'adopter. Moïse ignore qu'il est hébreu au départ. Il est un enfant de la cour royale. Il aurait pu se contenter de cela. Mais il y eut un appel à faire valoir ses talents pour tous ces personnages bibliques et bien d'autres dont il est question dans l'Épître aux Hébreux. Comme Josué, à qui il fut demandé de faire sauter le bouchon de Jéricho pour que le peuple puisse entrer en terre promise. Comme il fut demandé à Marie de donner naissance à Jésus. Comme il fut demandé aux futurs disciples d'abandonner père et filet de pêche pour devenir pêcheur d'hommes. Gustave ne fera rien de sa vie si nous ne lui faisons pas entendre l'appel à la vie élevée à la hauteur de l'espérance de Dieu. Parce que Gustave ignore tout de ce qui est possible dans la vie. Tout ce que nous révèle l'Évangile, tous ces aspects infiniment désirables, nous ne pouvons que les ignorer si personne ne nous en parle. Et comme le dira l'apôtre Paul, la foi, ce n'est pas génétique, il ne le dit pas comme ça. Il dit « la foi vient de ce que nous avons entendu ». L'engagement dans les textes bibliques s'est produit par des appels. Les gens disent « nous avons besoin de quelques personnes pour le conseil de secteur de centre-ville, nous avons besoin de quelques sacristains pour ouvrir le temple et en prendre soin, nous avons besoin de quelques personnes qui soient d'accord pour organiser quelques activités à caractère culturel ». Et puis, de façon générale, en dehors de l'Église, des appels doivent retentir. Et dans ce cas, les personnages bibliques répondent « Inneni, me voici ». C'est ça, être responsable. C'est répondre à l'appel de la vie. Voir qu'il y a une adéquation entre nos talents et les besoins du moment. Et mettre tout cela en œuvre, selon l'espérance de Dieu, qui consiste à faire en sorte que la vie soit belle, qu'elle soit grande, qu'elle soit jouissive. Alors, Gustave ne fera rien de sa vie si nous ne lui révélons pas les défis présents à relever, les causes pour lesquelles il pourra s'engager de tout son être pour apporter sa contribution personnelle à un monde un peu plus vivable. Nous qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, il importe que nous rendions Gustave attentif à cette grâce, pour que son histoire s'ouvre à ce que la grâce nous invite à vivre, à commencer par le fait de ne pas se satisfaire de ce que Dieu estime insuffisant et insatisfaisant. Pensons aux rencontres de Jésus. Bien souvent, Jésus a été importuné par des personnes qui sont venues lui présenter telle ou telle situation, tirer son vêtement, etc. Mais Jésus ne s'est pas défilé. Même quand les disciples voulaient ménager un peu de tranquillité, en empêchant les femmes de venir avec leurs enfants, Jésus leur dit, mais ne les empêchez pas. Le royaume de Dieu est pour eux. Dès à présent, il importe de s'occuper des petits pousses comme Gustave. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que la plante puisse éclore. Si dans notre culte, nous avons un moment de la liturgie pour entendre la volonté de Dieu à notre égard, aujourd'hui c'était le texte instituant le baptême, c'est parce qu'à la suite de Jean Calvin, nous comprenons que la loi est ce que Dieu nous rend capable d'accomplir. Et il importe qu'il y ait l'écoute de la loi dans le culte, pour que nous puissions entendre ce qui ne nous plaît pas forcément, ce que nous n'avons peut-être pas envie de vivre. Et je prends toujours l'exemple de l'amour de l'ennemi. Je n'ai pas spécialement envie d'aimer mes ennemis. Mais la vérité est que c'est un impératif, et que cet impératif est bon, qu'il est juste, et qu'il rend le monde infiniment plus vivable, infiniment plus fidèle à Genèse 1, ou à l'Épître aux Hébreux, et toute cette dynamique d'engagement à la suite de l'espérance et de la foi. Ainsi, la loi, c'est ce qui favorise les engagements dans lesquels la grâce peut s'exprimer. Et il faut qu'il y ait beaucoup de grâce qui s'exprime à travers Gustave. C'est notre responsabilité de communauté éducative de faire en sorte que Gustave, dans quelques années, puisse être agent de la grâce. Vivre de la grâce et être agent de la grâce. L'éducation spirituelle, c'est voir au-delà des réalités auxquelles nous sommes habitués. C'est voir le réel. L'éducation, c'est découvrir ce qui est désirable pour rendre le monde plus vivable, pour permettre à l'humanité de s'épanouir. C'est ça notre espérance. L'éducation spirituelle, c'est faire retentir les appels à l'engagement auxquels les jeunes pousses pourront répondre, ce qui en fera des êtres responsables. Puissions-nous tous être des agents actifs de l'éducation spirituelle que Dieu nous confie pour que le christianisme soit bien une religion de l'incarnation et pas simplement des belles idées. Amen. Voilà une réinterprétation de la patrie céleste dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, puisqu'il est question de la terre d'espérance et de gloire que Dieu a créée puissante et dont l'auteur prie Dieu qu'il la rende plus puissante encore. Poursuivons notre réflexion sur voir l'invisible avec le chant du cantique 601, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 601. Levons-nous pour chercher la présence de Dieu dans notre vie. Prenons place pour partager quelques informations. Vous avez la feuille d'annonce qui vous permet de trouver toutes les informations essentielles et les coordonnées. Il y a une modification à faire. Dimanche prochain, il n'y aura pas la marche conviviale. C'est reporté au mois suivant. Donc, à 13h30, pas de marche conviviale. Donc, vous pouvez venir tranquillement au culte sans vos chaussures de marche. Il y aura la semaine suivante le culte de rentrée, le 25, qui sera suivi d'un repas à la Gerbe, derrière la rue Bruès, derrière le carrousel qui est en train de sortir de terre. Chacun est invité à apporter une partie du repas. Pensez à prendre également vos couverts, de la boisson, de façon à ce que nous puissions avoir un repas qui sorte des sacs, car il n'y aura pas sur place de vaisselle. Il y a parmi toutes les reprises les rentrées universitaires. Des étudiants arrivent sur Montpellier pour y étudier, ce qui est heureux. Certains sont à la recherche d'un logement. Certains préféreraient un appartement, un studio, d'autres sont prêts à loger chez des paroissiens, moyennant rémunération ou participation aux frais matériels. Si vous avez des possibilités d'hébergement à mettre à disposition des étudiants, je suis preneur, nous avons des demandes qui nous sont faites. De la même manière, si des étudiants arrivent sur Montpellier et qu'ils souhaitent être un peu parrainés en quelque sorte, soit pour être orientés dans la ville, peut-être être orientés dans leurs études ou dans leur recherche de vie professionnelle en étant en contact avec des professionnels, eh bien, n'hésitez pas à transmettre ces demandes. Nous pourrons comme cela mettre les personnes en relation avec des seniors au sens professionnel du terme. Je vais laisser la parole à Marion pour quelques informations.
Bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous parler du projet Témoignage de foi. C'est la redite de l'annonce de dimanche dernier. Désolée pour ceux qui étaient déjà là. Alors, dans le but de préparer une exposition qui vise à toucher en particulier des personnes non-croyantes, il vous est proposé de répondre à un questionnaire. Ce questionnaire est disponible sur la table au fond du temple. Alors, j'aimerais dire deux choses. D'abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà répondu au questionnaire. Et ne soyez pas étonnés d'avoir reçu des mails de relance de la part du secrétariat, car des mails ont été envoyés à l'ensemble du fichier. Deuxième chose, pour ceux qui souhaiteraient encore participer et répondre à ce questionnaire, merci de le faire le plus vite possible. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous le préférez, d'y répondre de façon anonyme. Merci beaucoup de votre participation.
Parmi les appels que nous pouvons lancer, il y a aussi les appels aux musiciens. Nous avons besoin de pianistes, par exemple, pour accompagner nos cultes. Si vous savez jouer du piano, ce sera très volontiers que nous pourrons ainsi vous proposer d'accompagner nos cultes. Peut-être les morceaux musicaux, si pour vous accompagner les cantiques est un peu difficile, car accompagner les cantiques est certainement plus compliqué que de jouer des morceaux de musique. Bon, moi, je ne suis pas musicien. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ça va être le moment de l'offrande. Pour les nouveaux venus, l'offrande, c'est simple. Vous donnez à l'Église les moyens dont elle a besoin pour accomplir ses missions. Être présent auprès des familles, dans les bonnes circonstances et les moins bonnes, s'occuper de l'éducation des plus jeunes. Il va y avoir une augmentation du prix de l'énergie. On ne va pas chauffer à fond le temple, mais cet hiver, il ne faudrait quand même pas qu'on attrape des bronchites. Il faut provisionner de l'argent pour le gaz, bien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, je sais, on sort des vacances, vous avez dépensé tout votre liquide sur les terrasses de café, etc. Vous n'avez plus que votre petite carte bleue. Mais c'est pas grave. Vous prenez votre recueil de chants, et à la fin, vous avez un flashcode. Vous prenez votre téléphone, vous flashez, vous arrivez sur la page où vous pouvez faire un don avec votre carte bleue. Comme ça, vous faites des dons indécents, avec beaucoup de zéros et un devant. Vous voyez ? Vous mettez le maximum. L'espérance, c'est ça. Ce n'est pas les trucs chiches comme on a toujours fait 1 ou 2 euros. Non. De l'ambition. Donc, vous avez du liquide, c'est très bien. Vous avez un chèque, c'est parfait. Et si vous faites avec le flashcode, vous recevrez aussi un reçu fiscal. Ce qui vous permettra de réduire votre impôt sur le revenu. Donc, vous donnez 2 fois plus que ce que vous auriez donné autrement. Elle n'est pas belle, la vie ? Allez, c'est maintenant le moment de l'offrande. C'est Alice et Guillaume qui maintenant nous conduisent dans la prière.
Mon Dieu, nous avons demandé le baptême car nous croyons que Gustave est proche de toi. Nous avons voulu que tu lui affirmes ton amour. Nous avons demandé le baptême pour lui faire comprendre que, dans la souffrance, il pourra trouver ta tendresse. Nous avons besoin de ce sentiment de chaleur dans le cœur, de ce souffle sur l'épaule, cette voix intérieure si puissante et si discrète à la fois, et que dans les épreuves, nous puissions tous bénéficier de ta confiance. Ta présence est comme une lumière. Elle se manifeste lors des moments d'angoisse, de doute, de défaite, et nous permet d'espérer.
Nous sommes conscients de nos limites et nous nous en remettons à toi pour nous guider, pour nous attirer vers la bonne direction. Inspire-nous pour faire preuve d'intégrité. Inspire Gustave pour qu'il soit désireux de procurer joie, tendresse et amour, pour que Gustave ait de la considération pour autrui sans préjugés. Donne à chacun d'entre nous le pouvoir de s'engager dans la foi. Inspire-nous pour assumer les responsabilités et ne pas reculer devant la charge de travail pour rendre un monde plus humain.
Et nous nous levons pour rassembler toutes nos prières dans les mots que le Christ Jésus a transmis à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous porte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos pensées et nos actes en Christ Jésus. Oui, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. Amen. Chantons la 8e strophe de notre psaume 81.